Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Il est maintenant 10h30 et c'est maintenant le temps de la chronique à Nora. Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Ben oui, merci. Là, tu viens nous parler de la COP30.
C'est ça, parce qu'en fait, du 10 au 21 novembre 2025, a lieu la COP30 à Belém, au Brésil. Et comme cela a lieu actuellement, je me suis dit que ce serait bien d'en parler.
Ben oui, certain.
Alors, la COP, ce n'est pas la première réunion qui est organisée par les Nations Unies sur les questions environnementales et de développement durable. Sous un autre nom, on a connu les Sommets de la Terre, dont le premier s'est déroulé à Stockholm en 1972, ou encore la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio en 1992. Il faut noter qu'il y a trois formes de COP. La COP sur la biodiversité, qui se tient tous les deux ans. La COP sur la lutte contre la désertification, elle aussi tous les deux ans. Et la COP sur les changements climatiques, qui est la plus importante, qui se tient tous les ans. Et c'est de cette dernière dont on va parler. Bon, déjà, la COP, c'est l'abréviation de la Conférence des parties. C'est une réunion annuelle dans laquelle les États travaillent ensemble pour trouver des solutions concrètes face au changement climatique. Tout remonte en 1988, quand est créé le GIEC. Soit le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organe scientifique de l'ONU. Ce dernier, en 1992, alerte l'Organisation des Nations Unies sur la gravité du changement climatique. Mais il ne fut pas le seul. Il y eut entre autres le rapport de Madame Brundtland, présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies. Ce rapport évoque notamment la définition de développement durable pour la première fois. L'ONU décide donc de prendre des mesures internationales et a adopté en 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 197 pays l'ont ratifiée, ainsi que l'Union européenne. On les appelle les parties à la Convention. L'objectif ultime de la Convention est de parvenir à un mode de vie similaire à celui qu'on vit actuellement, sans que cela n'affecte les générations futures. Et pour cela, il est nécessaire de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, à un niveau qui empêche toute perturbation du système climatique, ce qui est très ambitieux. La Convention est entrée en vigueur en 1994, et depuis 1995, la COP se tient chaque année. Je l'évoque rapidement ici, mais la COP, ce n'est pas la seule réunion actuelle sur les changements climatiques. Il y a aussi la CPM, la CMA ou encore les pré-COP qui préparent la COP. Mais ce serait trop long de les détailler ici, il faut juste savoir que la COP, c'est la réunion centrale. Donc lors de ces COP, les États membres rédigent des conventions qui les obligent à se conformer aux décisions prises. Les objectifs de ces différentes conventions sont principalement les mêmes. Réduire les gaz à effet de serre, mais aussi rétablir l'équilibre entre les pays en développement et les pays développés pour permettre une transition écologique pour tous. Je vais revenir sur la COP21 de Paris en 2015 qui adopte l'accord de Paris, un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Son objectif primordial est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. En pratique, cela exige une transformation économique et sociale majeure. Malheureusement, c'est un travail pour tous et je suis au regret de vous apprendre que cet objectif a échoué. En effet, cela a été confirmé. Le monde a franchi le seuil en 2024. Et selon les experts en sciences du climat, le monde atteindra une augmentation de 2,8 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici 2100. Cette limite était considérée comme vitale par les experts pour éviter les pires impacts du changement climatique. Donc même si chaque réunion des COP est importante, celle-ci est primordiale, car c'est la première depuis que le seuil a été dépassé. Ce sera aussi l'occasion de mettre en lumière les effets dévastateurs de l'extraction de combustibles fossiles au Brésil. En effet, le gouvernement brésilien a la volonté d'être un leader mondial de l'action climatique et cette intention se trouve en contradiction avec leurs actions nationales. Pour dire, le 20 octobre de cette année, le gouvernement brésilien a accordé à une compagnie pétrolière publique une licence pour forer dans l'embouchure de l'Amazonie. Ce qui aura de graves répercussions négatives sur le climat ainsi que sur l'environnement local. D'ailleurs, alors que la crise climatique s'aggrave rapidement, de nouveaux gouvernements ont augmenté les combustions fossiles au cours de l'année écoulée. Par exemple, le Canada a assoupli la réglementation concernant l'extraction et la transformation de combustibles fossiles, tandis que les Américains ont quitté l'accord de Paris et font pression sur d'autres pays pour qu'ils achètent des combustibles fossiles américains. Les gouvernements doivent atténuer la crise climatique en éliminant les émissions de combustion fossile, ce qui crée le gaz à effet de serre. Et cela doit être fait maintenant. En effet, je ne suis pas scientifique, mais pour faire une petite explication, la combustion des énergies fossiles crée du gaz à effet de serre. Il faut savoir que la planète crée naturellement des gaz à effet de serre, et ces derniers viennent se loger dans l'atmosphère pour créer une barrière protectrice. En d'autres termes, ils piègent la chaleur du soleil, maintenant une température habitable sur Terre. Mais les activités humaines ont augmenté la production de gaz à effet de serre, ce qui provoque le réchauffement climatique et tous les dégâts qui suivent. Il existe deux équipes face au changement climatique, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Ceux-là, on les appelle les climato-sceptiques, et leur principal argument face au changement climatique, c'est que celui-ci est normal, que la planète a déjà connu des périodes plus chaudes et plus froides. Cela est vrai. Toutefois, il faut reconnaître que dans notre situation actuelle, ce n'est pas la planète qui se réchauffe naturellement, mais nos actions qui réchauffent la planète. D'ailleurs, les statistiques révèlent que même durant les périodes chaudes, jamais elles n'avaient atteint un tel niveau que celui qu'on vise actuellement. Je me suis basée sur le site d'Amnesty International pour effectuer mes recherches, donc il fallait évidemment que j'évoque aussi les droits de l'homme. Amnesty, c'est une ONG qui se bat pour les droits humains dans le monde. L'association rappelle que dans de nombreux traités juridiques, il est inscrit que tous les hommes ont le droit de vivre dans un environnement propre, sain et durable. Et ce droit découle du droit à la santé et du droit à la vie. Donc des droits fondamentaux pour les êtres humains. Mais le changement climatique menace de plus en plus ces droits. Il provoque des sécheresses, ce qui accroît la famine, il entraîne la pollution de l'air, la propagation de maladies, une forte chaleur qui cause des décès, des inondations qui entraînent des migrations climatiques, et j'en passe. Le réchauffement climatique touche tout le monde. Mais on est forcé de reconnaître que les pays qui y contribuent le moins sont ceux qui subissent particulièrement les effets néfastes. Et ce sont souvent les pays en développement. En revanche, les pays développés sont ceux qui contribuent le plus au changement climatique et ceux qui, pour l'instant, sont le plus épargnés. Un exemple serait le Pakistan. Ce pays contribue à moins de 1% des émissions mondiales, mais son territoire est le plus vulnérable aux catastrophes climatiques. En 2022, la température a atteint les 50 degrés sur une grande partie de son territoire et pendant la saison des moussons, les communautés ont été inondées. Il serait donc très intéressant de s'intéresser à la justice climatique. Pour rappel, la justice climatique, c'est un concept qui relie la crise environnementale aux inégalités sociales, éthiques et politiques. En d'autres termes, il faudrait éviter de créer de nouvelles disparités. Tout le monde est concerné par cette crise, il faut donc coopérer pour la limiter, en aidant les pays qui ont le moins de ressources et en éliminant progressivement les combustibles fossiles pour réduire les gaz à effet de serre. On espère que la rencontre de cette année va réussir à trouver des solutions concrètes, et ce pour le bien de tous. La devise d'Amnesty est « On se bat ensemble, on gagne ensemble », et je crois qu'elle est ici bien appropriée.
Ben oui, certain. Ben tu nous as vraiment bien expliqué c'était quoi la COP, puis ses défis, ses enjeux. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment intéressant.
Merci à vous.
Ben, on va se revoir dans une prochaine chronique.
Mm-hmm.
Ben oui. Et puis, c'était la chronique à Nora qui est venue nous parler de la COP 30, mais aussi des enjeux climatiques depuis plusieurs années. Alors, merci beaucoup. Et pour nous, on se laisse sur une courte pause. Et après ça, nous avons un invité de dernière minute pour venir fermer l'émission. Restez à l'écoute, bougez pas.